Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Je ne sais pas si je serai encore candidat ce soir.
Jean Lassalle, candidat résistant le 15 mars 2022.
Il reste deux malheureux débats auxquels je ne serai pas invité, pas plus qu'hier soir.
Ce soir, il y a un grand rendez-vous dans le cadre de l'élection présidentielle. Le premier grand débat dans le cadre de l'élection présidentielle avec l'ensemble des candidats sur TF1, dans la chaîne du milliardaire Martin Bouygues.
Philippe Poutou, candidat NPA le 14 mars 2022.
Eh ben non, puisqu'en fait, ils ont sélectionné les candidatures qui leur plaisaient. Il y en a 8 et pas 12. Donc ça nous permet aussi quand même de dire que ben en fait les 500 parrainages, c'est du pipeau. Hein. On est candidat officiel, on a réussi à franchir ce cap-là, mais ça suffit pas.
Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Présidentielle, notre rendez-vous hebdomadaire où on parle de l'élection au mandat suprême. De ses coulisses, de pouvoir, d'argent, de violence, mais aussi de ferveur populaire, d'idées, de conquête, de l'Élysée. Pour ce quatrième épisode, place au sondage durant les campagnes présidentielles. Des sondages devenus produits ordinaires d'informations politiques et médiatiques. De 193 enquêtes en 2002, il y en a eu 560 pour la campagne présidentielle de 2017. Pratique encadrée par la loi de 1977, modifiée en 2016, les sondages sont souvent présentés comme indiscutables. Et pourtant, ils se trompent souvent. À l'étranger, on se rappellera du Brexit au Royaume-Uni, encore de la victoire de Donald Trump aux États-Unis en 2016. En France, avec le candidat du FN qui arrive au second tour de la présidentielle de 2002, toute consultation électorale confondue, même les dernières estimations se révèlent approximatives ou erronées dans environ un scrutin sur deux, affirme Alexandre Désé, maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Montpellier, chercheur au CEPEL, enseignant à Sciences Po Paris, auteur de 10 leçons sur les sondages politiques chez Debec Supérieur. On en parle avec vous, Alexandre Désé, bonjour. Pourquoi les sondages se trompent-ils autant sur des grosses élections comme la présidentielle de 2002 ou encore les dernières régionales et européennes?
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne se trompent pas seulement sur les grosses élections, sur les élections importantes, mais sur toutes les élections. J'ai fait un comptage, je me suis intéressé aux élections depuis 25 ans et j'ai comparé les résultats des élections avec les prévisions des instituts de sondage dans leurs dernières estimations. Et ces dernières estimations, elles sont censées être les plus fiables. Parce que, bon, elles sont réalisées à la veille du scrutin, au moment où la campagne est terminée et au moment où les électeurs sont les moins indécis. Donc, normalement, quand on sonde une population à la veille d'une élection, on devrait être tout proche du résultat. Or, au cours de ces 25 dernières années, toute consultation électorale confondue, les estimations des instituts en France se sont avérées approximatives ou erronées dans environ un cas sur deux. Donc, ça fait beaucoup. Alors, sachant que plus on s'éloigne dans le temps des scrutins, et plus ces estimations risquent d'être incorrectes. Par exemple, si on prend l'élection présidentielle, à un an de l'élection présidentielle, depuis 1995, aucun sondage n'a donné le bon ordre d'arrivée de ce qui s'était passé à l'issue du premier tour. Mais quand on se rapproche de l'élection, à 6 mois de l'élection présidentielle, les sondages ne sont corrects que dans 1 cas sur 8. Et à 3 mois, c'est encore dans 1 cas sur 3. Donc très concrètement, une grosse partie des sondages proposent des estimations qui sont très éloignées des rapports de force qui vont apparaître au soir des élections.
Pourquoi les instituts de sondage ne donnent jamais les mêmes chiffres au même moment?
Ça va paraître bizarre, mais c'est quand les instituts donnent les mêmes estimations qu'on peut douter également de la véracité de ces estimations. C'est ce qu'on appelle le phénomène de herding, en anglais, de groupement, c'est-à-dire que d'un point de vue statistique, il est improbable que les instituts parviennent à donner les mêmes estimations. C'est plutôt généralement bon signe qu'il y ait quand même des écarts entre les estimations. Alors pourquoi ? En France, les instituts utilisent à peu près la même méthode d'échantillonnage, la méthode des quotas. Et ils obtiennent à partir de cette méthode des résultats bruts. Mais dans ces résultats bruts, généralement, on se rend compte qu'ils sont, enfin, c'est un sondeur, un ancien sondeur qui s'appelle Roland Cayrol. Il dit les résultats bruts des enquêtes sont faux. Alors, c'est très bizarre d'avouer une telle chose parce que rarement, en fait, dans une activité professionnelle, on avoue que le produit de son activité est quelque chose de factice, en fait. Pourquoi ils sont faux? Parce que, au niveau de la composition sociodémographique des échantillons, il manque des gens. Et il manque notamment toutes les personnes qui se sentent pas forcément habilitées à répondre à des questions politiques. Et généralement, c'est un profil social très particulier, des personnes qui occupent les positions basses, justement, de l'échelle sociale, niveau de revenus faible, niveau de diplôme faible, niveau d'intégration sociale faible. Ce sont des gens qui laissent généralement le politique très, très loin d'eux. Il faut corriger la structuration sociodémographique de ces échantillons pour parvenir à un échantillon représentatif. Donc, on va gonfler artificiellement le nombre de personnes manquantes dans les sondages. Mais attention, ça passe encore, on pourrait dire. C'est pas illicite de faire des opérations qu'on appelle de redressement grâce à des coefficients de pondération. Ce qui pose problème, c'est au niveau politique, surtout. C'est-à-dire que dans les échantillons bruts, si on regarde la structuration des intentions de vote dans un sondage, généralement, on se rend compte que ça correspond pas à la réalité. Qu'est-ce qu'on observe ? Généralement, une sous-déclaration de l'abstention. C'est-à-dire, vous avez beaucoup moins de personnes qui disent qu'elles n'ont pas voté que dans la réalité. Pourquoi ? Parce que avouer son abstention, alors surtout dans les sondages qui sont faits par téléphone, par face-à-face, même si ça devient minoritaire, en fait, c'est se présenter comme un mauvais citoyen. Donc, les instituts ont beaucoup de problèmes à estimer l'abstention. Et d'ailleurs, ils se trompent régulièrement. Deuxième chose, on a une sur-déclaration des intentions de vote et de la sympathie pour les partis de gauche et du centre. Avant, dans les enquêtes par téléphone en face à face, les gens n'osaient pas dire qu'ils votaient Front National. Aujourd'hui, il y a plus de gens dans la réalité qui disent qu'ils vont voter Rassemblement National ou Marine Le Pen. Ça signifie une chose, c'est que les responsables d'instituts, les sondeurs, savent très bien que quand ils sont à la fin de leur enquête, donc les résultats bruts, ils savent très bien que ces résultats, effectivement, ne reflètent pas la réalité. Donc, ils les redressent.
Et ce sont des secrets de fabrication, ces techniques de redressement. Aucun institut sur la place publique ne va dire sa méthode, sa formule magique peut-être, pour redresser ces données brutes.
Exactement, alors que c'est une obligation légale. C'est-à-dire que depuis 2016, c'est une loi qui corrige la première loi sur les sondages de 1977. Normalement, ils ont obligation d'indiquer, alors écoutez bien la formulation de la loi, s'il y a lieu, les critères précis de redressement des résultats bruts. Sauf qu'il y a très très peu d'instituts qui le font. Généralement, ils le font pour les résultats antérieurs, en fait. C'est-à-dire quand ils demandent aux personnes interrogées ce qu'elles ont voté par le passé. Ce qu'ils communiquent, c'est maintenant, de plus en plus souvent, les résultats bruts et les résultats redressés, mais pas les coefficients de pondération. Et puis, ce qu'on sait, c'est que... Alors, je vais présenter les choses de la manière suivante. Il y a un responsable d'institut qui s'appelle Pierre Veil, qui était le fondateur de la Sofres, et qui, dans une tribune au Monde, il y a une dizaine d'années, a dit, bon, pour les redressements, on suit des recettes de cuisine, mais ces redressements comportent également une part de pifomètre. Pifomètre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les sondeurs redressent également en fonction de leur propre évaluation des rapports de force politique sur le moment, de leur propre flair politique. Et c'est ça, potentiellement, qui peut aussi expliquer les différences entre les résultats des enquêtes.
On a parlé des biais, d'échantillonnage, de représentation. Vous dites dans votre livre que la qualité des sondages politiques réalisés par les instituts semble avoir diminué au cours de ces dernières années. Pourquoi ?
Alors, c'est lié principalement à la généralisation des enquêtes en ligne, en fait. Avant, les enquêtes étaient réalisées d'abord en face-à-face. On allait au domicile des gens. Ensuite, on est passé au téléphone. Et maintenant, on est passé à Internet.
Donc, c'est juste un clic ?
C'est ça le problème, parce que ces échantillons, en fait, soulèvent beaucoup de problèmes. Les sondeurs ont plutôt tendance à les présenter comme étant des échantillons qui ont permis de résoudre un certain nombre de problèmes. Moi, personnellement, et un certain nombre de mes collègues, on trouve qu'au contraire, ces sondages posent un certain nombre de problèmes. Alors, lesquels ? D'abord, les personnes qui répondent à ces enquêtes en ligne, ce sont des personnes qui sont volontaires et auto-recrutées. Vous avez la possibilité de vous inscrire sur un panel qui sera soit directement géré par un institut de sondage, soit géré par des sociétés spécialisées. Par exemple, Bilendi, qui gère le panel Maximize, sur lequel je me suis inscrit l'été dernier pendant que je rédigeais mon livre.
Et vous avez fait plusieurs profils, comme dans l'enquête du livre?
Alors, exactement. J'étais très content de lire l'article de Luc Brunner. Un des problèmes, alors, toutes ces personnes volontaires qui s'inscrivent, alors ça compte revient vraiment au principe élémentaire de l'échantillonnage sondagier. C'est un peu technique, mais effectivement, vous pouvez vous inscrire sous n'importe quel profil. C'est-à-dire, l'inscription est sans condition, sans contrôle, en fait. Alors, pas seulement au moment où vous inscrivez sur MaxiMiles, mais également au moment où vous commencez à répondre à des sondages. Je suis toujours inscrit sur MaxiMiles et je reçois à peu près 3 à 4 sollicitations par jour. Et à chaque fois que je réponds à un sondage, je dois renseigner mon identité. Sauf que je me suis amusé à faire des choses un peu particulières pour voir si ça passait. C'est-à-dire, au lieu de cocher que j'étais un homme, je disais que j'étais une femme. Au lieu de dire que j'étais marié, je disais que j'étais divorcé. Au lieu de dire que j'avais 2 enfants, je disais que j'en avais 4. Au lieu d'avoir... j'ai une 50aine d'années maintenant. Je mettais que j'avais 35 ans. Ça, c'est pour les quotas, pour les critères sociodémographiques. Mais après, il y a les questions politiques. Moi, j'avais indiqué que j'étais d'extrême droite, que j'allais voter Anne Hidalgo pour la prochaine présidentielle et qu'à la précédente présidentielle, j'avais voté pour Nathalie Arthaud, de Lutte Ouvrière. Et la question, c'est de savoir dans quelle mesure, en fait, ces réponses-là sont contrôlées. Et plus remarquable encore, parce que normalement, les instituts, sauf dérogation, ne peuvent pas poser des questions sur la religion, j'ai pu indiquer que j'étais musulman, ce qui n'est pas le cas. Et donc, terminer le sondage comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez répondre à peu près n'importe quoi, à n'importe quelle question. C'est une belle formule de Pierre Bourdieu. Et votre identité, en fait, n'est pas forcément contrôlée. Donc, c'est la question de savoir qui répond. L'autre problème, c'est qu'ils sont rémunérés. Alors, pas beaucoup. Vous pouvez obtenir des bons cadeaux. Vous pouvez...
C'est quelques centimes, c'est quelques euros.
Alors, vous pouvez également, effectivement, cumuler un certain nombre de points monnayables. C'est moins de 1 euro par questionnaire rempli. Mais là, en tant que sociologue, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a encore affaire à des personnes qui sont représentatives de la population ? Parce que on peut penser qu'en fait, le fait de répondre à ces sondages transforme ces personnes qui sont censées être représentatives de la population en sondés professionnels. C'est-à-dire, si vous êtes inscrit sur plusieurs panels, que vous répondez à plusieurs questionnaires par jour, vous pouvez arrondir de manière sympathique vos fins de mois. Quand on réussit à interroger des personnes qui participent à ces panels, elles répondent tout simplement qu'elles ajustent leur comportement de réponse aux questions qui sont posées. Vous n'obtenez pas les points si vous n'arrivez pas jusqu'au bout du questionnaire. Donc en fait, les personnes répondent qu'elles s'adaptent et elles ne livrent pas forcément leur opinion, qu'il leur arrive de mentir sur différents types de pratiques sociales ou politiques juste pour obtenir les points. Ça pose un certain nombre de problèmes. Le dernier, et j'en finis, avec les échantillons en ligne, c'est qu'on oublie qu'en France, vous avez 14 millions de personnes qui n'ont pas Internet ou qui ont Internet, mais qui ne s'en servent pas. Et là-dessus, il faut rajouter quand même presque une moitié de la population qui souffre de ce qu'on appelle l'électronisme, c'est-à-dire qu'il y a du mal à servir d'Internet, du mal à servir de logiciel, et qui, de fait, n'est pas du tout habilité ou se sent pas habilité à répondre à des questionnaires en ligne. Donc, vous évacuez toute une partie de la population de ces échantillons.
Ce qui est remarquable, je vous cite en définitive, c'est que ces erreurs à répétition n'ont quasiment jamais d'impact sur le secteur de l'industrie sondagière et sur ses entreprises.
On l'a vu encore une fois à l'issue des régionales de 2021. On peut considérer que ces élections représentent un nouvel échec important pour les instituts. Dans les médias, on a parlé de plantage, de naufrage. Et pour cause, les erreurs d'estimation ont été particulièrement fortes en ce qui concerne le Rassemblement national, qui est un des partis que les instituts peinent depuis très longtemps à estimer correctement. On pourrait se dire que cet énième échec amènerait, ou pourrait amener en tout cas les médias à se raisonner un petit peu dans leur consommation de produits sondagiers. Donc à chaque fois qu'il y a des erreurs d'estimation, les médias intentent un procès aux instituts, convoquent les responsables d'instituts sur les plateaux ou dans les colonnes. Et puis,
juste après l'élection.
Juste après l'élection. Mais ça, c'est juste avant également de re-signer des contrats de partenariat avec les instituts. Ça dit à mon avis deux choses. D'abord, à quel point les sondages sont devenus un produit ordinaire d'information médiatique. Ça parle, ça rythme la campagne. Et puis la deuxième chose, ça montre également la puissance de l'industrie sondagière. L'étroitesse et également des liens qui relient le monde médiatique au monde sondagier et au monde politique.
En France, d'après l'INSEE, il y aurait un peu plus de 2200 entreprises qui évoluent dans ce secteur.
200 qui sont vraiment positionnés sur le marché des études et d'opinion et une dizaine d'instituts de sondage qui vraiment sont les principaux acteurs du marché. Ce sont les instituts qu'on connaît, IFOP, BVA, Kantar, ELAB, Odoxa. Ce sont vraiment ces instituts qui monopolisent le marché notamment des sondages politiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont une dizaine, mais que ces enquêtes représentent quasiment pas grand-chose dans leur chiffre d'affaires. C'est entre, on estime entre 1 et 5% de leur chiffre d'affaires. Donc ça signifie que ça leur rapporte pas grand-chose, sauf de la visibilité. C'est-à-dire la possibilité de faire de la publicité autour de leur marque.
Est-ce qu'on peut se passer, nous collectivement, acteurs politiques, médias aussi, population, électeurs, électrices, des sondages? Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres outils aujourd'hui pour appréhender les évolutions dans la campagne présidentielle, sentir un peu mieux l'air du temps?
Le débat revient sur la question de savoir s'il faudrait supprimer les sondages. Moi, je pense pas. Quand les sondages sont bien faits, ils fournissent des connaissances extrêmement précieuses sur un certain nombre de phénomènes, notamment politiques. C'est-à-dire, sans les enquêtes quantitatives en sciences politiques, on ne saurait pas grand-chose sur de la sociologie des comportements électoraux. Mais effectivement, il y a eu une dégradation progressive, à mon sens, de la qualité des enquêtes. Il y a de moins en moins de contrôle sur les modalités de production de ces enquêtes, ce qui rend leur importance problématique. Je pense qu'il faudrait réduire le nombre de sondages, améliorer leur qualité, déshystériser, comme on peut dire, la production et l'utilisation, et puis se recentrer sur des choses peut-être un petit peu plus qualitatives. Mais c'est pas vraiment la qualité qui prime, mais plutôt la rapidité. Aujourd'hui, on fait aussi des sondages low cost parce qu'il y a une très forte demande médiatique, que l'important c'est de publier les résultats, peu importe les modalités de production de ces résultats, tant que le résultat fait du buzz.
Merci à Alexandre Désé pour cet entretien. Minute Papillon, c'est un podcast original de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner. Pour nous contacter, une seule adresse mail, audio@20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, bonne écoute.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.